Vous écoutez, on lit pour vous.
Les quartiers défavorisés de Montréal sont les plus exposés aux risques climatiques. Un texte d'Alexandre Shield, paru le 5 novembre 2024 dans Le Devoir. Face à la chaleur qui accable de plus en plus Montréal en période estivale, les citoyens ne sont pas tous égaux. Les secteurs défavorisés comptent en effet beaucoup plus d'îlots de chaleur et beaucoup moins d'îlots de fraîcheur que le reste de la région urbaine, constate un nouveau rapport publié par la Fondation du Grand Montréal et Vivre en ville. Le document, intitulé « Signes vitaux du Grand Montréal sur les iniquités territoriales », met en lumière le fait que des risques environnementaux bien réels compromettent la qualité de vie des plus vulnérables, particulièrement dans un contexte de réchauffement climatique. Les secteurs défavorisés cumulent plusieurs désavantages. Faible couverture arborée, accès restreint aux transports collectifs, pollution de l'air, insécurité routière, etc., énumèrent les auteurs. Ceux-ci insistent notamment sur l'exposition disproportionnée à la chaleur, en soulignant que les secteurs défavorisés suffoqueront plus que les autres dans les années à venir en raison de la hausse des températures imputables au dérèglement du climat de la planète. Selon les constats inscrits dans le rapport, on y compte actuellement 3 fois plus d'îlots de chaleur et 5 fois moins d'îlots de fraîcheur que la moyenne dans la grande région de Montréal. Cette exposition à la chaleur sera d'ailleurs de plus en plus forte, puisque, selon les données disponibles, on prévoit que les journées dépassant 32 degrés Celsius seront de 3 à 5 fois plus nombreuses qu'aujourd'hui pour la période 2049-2070. Et la lenteur des États à agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre risque de provoquer un réchauffement qui dépassera facilement les 4 degrés Celsius dans le sud du Québec bien avant la fin du siècle, prévenait en 2024 le groupe d'experts en adaptation au changement climatique mandaté par le gouvernement Legault. Cette situation est particulièrement préoccupante. Sachant que les populations en situation de vulnérabilité sont souvent plus sensibles à la chaleur accablante en raison des conditions de santé moins favorables, peut-on lire dans le document de 136 pages. La présence d'îlots de chaleur aggrave les effets de la chaleur accablante sur la santé humaine. Pendant la canicule de l'été 2018, la majorité des personnes décédées à Montréal des conséquences de la chaleur accablante habitaient dans un îlot de chaleur, rappelle aussi le rapport. Pollution et inondation. Qui plus est, dans un contexte de réchauffement, l'adaptation en milieu urbain passe notamment par l'amélioration de la qualité des logements. Le problème, c'est que les ménages à faible revenu ont moins de contrôle sur leur environnement résidentiel, notamment parce que la très grande majorité d'entre eux sont locataires. Ils sont aussi moins susceptibles d'avoir accès à la climatisation que les ménages propriétaires. Autre enjeu important. La hausse des inondations en raison des événements climatiques extrêmes. Certains secteurs défavorisés à Montréal sont particulièrement vulnérables aux inondations par ruissellement, un phénomène en croissance qui pousse les autorités publiques à accélérer l'implantation d'infrastructures vertes et drainantes, mais sans vision claire associée aux zones de vulnérabilité sociale, déplorent les auteurs du rapport. Par ailleurs, les résidents des secteurs les plus démunis sont très clairement surexposés à la pollution émise par les voies de circulation majeures. Et, lors de périodes de forte chaleur, cette pollution est d'autant plus dommageable que les fortes températures contribuent à faire augmenter les concentrations de plusieurs polluants, dont ceux émis par le trafic routier. C'est maintenant prouvé. Dans la grande région de Montréal, les quartiers où se concentrent la pauvreté et les vulnérabilités sont aussi moins bien équipés et moins favorables à la santé, résume Jeanne Robin, directrice principale de Vivre en ville. Alors que notre façon d'organiser les milieux de vie devrait viser à atténuer les inégalités, ce sont toujours les mêmes qui subissent un cumul de nuisances. L'ensemble de nos politiques et programmes, à tous les paliers, doit être passé au crible pour les mettre au service de l'équité, ajoute-t-elle. Lorsque certains territoires de la grande région de Montréal sont laissés de côté, c'est toute notre résilience collective qui en souffre. Pour bâtir un avenir plus juste et durable, nous devons repenser nos espaces urbains afin qu'ils répondent aux besoins de toutes et de tous, en particulier les plus vulnérables, fait aussi valoir Karel Méran, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal. Le rapport insiste donc sur le besoin de mettre en œuvre des mesures qui permettront de réduire les risques, notamment ceux liés au réchauffement climatique pour les secteurs les plus défavorisés. On cite en exemple la nécessité d'augmenter le verdissement dans les rues et l'accès à des espaces verts, qui ont plusieurs effets positifs sur la santé des citoyens. Ils encouragent un mode de vie physiquement actif, favorisent le bien-être psychologique et diminuent le stress, le sentiment de solitude et les nuisances comme la pollution de l'air et l'effet d'îlots de chaleur urbains. Un milieu de vie verdi réduit ainsi les inégalités sociales devant la maladie. C'était « Les quartiers défavorisés de Montréal sont les plus exposés aux risques climatiques », un texte d'Alexandre Schild, paru le 5 novembre 2024 dans Le Devoir.
Téléviseurs à reconnecter. Un texte de Pierre Trudel, paru le 2 avril 2024 dans Le Devoir. Toute proportion gardée des émissions présentées à Radio-Canada, à Nouveau ou à TVA remporte des succès d'écoute à rendre jaloux les diffuseurs de plusieurs pays. Mais pour combien de temps encore? Désormais, lorsqu'un consommateur acquiert un téléviseur, l'écran d'accueil qu'on lui impose comporte un ensemble de propositions, souvent en anglais seulement, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les préférences de la plupart des Canadiens. Dans un reportage diffusé en mars 2024 à Enquête, on apprend que les téléviseurs connectés couramment vendus dans les commerces de détail sont souvent configurés de manière à exclure les contenus produits ici. En raison de l'affligeant retard à mettre nos lois à niveau, les fabricants ont la faculté de configurer à leur guise les appareils qu'ils proposent sur le marché canadien. Ils n'ont pas à tenir compte du fait qu'il existe ici des créatrices et créateurs qui produisent des musiques et des émissions télévisuelles originales. La personne qui se procure aujourd'hui un téléviseur est en situation d'ignorer l'existence de TVA, Nouveau, Radio-Canada ou Télé-Québec. L'opinion publique s'émeut pour des questions infiniment plus dérisoires. Par exemple, dans le reportage d'Enquête, l'appareil acquis par le citoyen montréalais ne comportait pas les applications de Radio-Canada, de TVA, de Nouveau, ni de Télé-Québec. C'est sans compter les télécommandes qui comportent des touches spécifiques associées uniquement à des services étrangers, comme Netflix ou Amazon Prime, alors qu'elles occultent la plupart des services canadiens de programmation. Les configurations par défaut s'imposent à l'usager. Parfois, elles peuvent être modifiées, souvent au prix d'efforts qui ne sont pas toujours à la portée de tous. Surtout, rien ne garantit que les consommateurs puissent installer des applications qui donnent accès aux télévisions canadiennes. À Enquête, Marie Collin, PDG de Télé-Québec, déplore que, sur certains équipements, il ne soit pas possible d'installer l'application de ce diffuseur. Des données qui valent de l'or. Les téléviseurs connectés soulèvent d'autres questions. Lorsqu'il en installe un, le consommateur est invité à consentir à la collecte de données qui peuvent être générées par l'appareil. De telles données sur ses habitudes d'écoute et d'autres informations peuvent ainsi être transmises aux fabricants et à ses partenaires commerciaux. Il y a là une illustration du caractère certes nécessaire, mais insuffisant du consentement individuel pour encadrer la collecte et le traitement de données personnelles. Il faut des réglementations obligeant les entreprises qui collectent de telles masses de données à rendre compte de ce qu'elles en font. En effet, Ces données alimentent les algorithmes qui génèrent les recommandations acheminées aux usagers. Elles n'intéressent pas que les individus placés devant le faux choix de consentir ou de renoncer à connecter leur téléviseur. Ces données massivement collectées sont des ressources essentielles pour comprendre les habitudes, générer de la valeur et vendre des publicités. Elles sont accaparées sans sérieuse contrepartie par les multinationales qui dominent le marché. Et pendant qu'on laisse faire cet accaparement au profit des multinationales, on s'épuise ici à déplorer que la base de financement de nos médias s'effrite. Les réglages par défaut des sites web ou des objets connectés imposent leurs conditions sans qu'il soit pratiquement possible de connaître leur mode de fonctionnement. Persister à considérer ces dispositifs comme relevant tout bonnement des pratiques commerciales et du consentement individuel est d'une décourageante naïveté. Une naïveté qui explique le retard des autorités publiques à imposer de vraies obligations aux fabricants et à toutes les entreprises qui configurent des objets et valorisent les données qu'ils génèrent. Cet immobilisme équivaut à cautionner les risques de manipulation qui peuvent forcément résulter de ces procédés. Par exemple, s'agissant des livres vendus sur Amazon, Le Monde rapportait les constats d'un rapport publié en décembre 2023 sur son système automatisé de recommandations et de recherche. Les chercheurs ont constaté non seulement qu'on fait la promotion de livres trompeurs sur la santé, l'immigration, les changements climatiques et les questions de genre, mais aussi que le système piège également les utilisateurs dans de tels récits. Ces révélations devraient inciter le gouvernement québécois à imposer des obligations de découvrabilité aux librairies en ligne qui relèvent assurément de sa compétence. Si les algorithmes peuvent, comme le montre l'étude, favoriser les ouvrages complotistes et autres livres procédant de démarches de désinformation, il devrait être possible de le savoir et d'imposer que ces algorithmes fonctionnent selon des critères connus et publiquement critiquables. Au fédéral, la législation impose aux entreprises de diffusion en ligne d'assurer la découvrabilité des œuvres canadiennes. Le CRTC a entrepris des audiences afin de déterminer comment les plateformes en ligne devront assurer la mise en valeur des productions canadiennes francophones, de même que celles émanant de créateurs des Premières Nations. Le rapport Yale sur la mise à niveau des lois sur les communications rappelait que le ministre de l'Industrie devrait avoir le pouvoir d'établir et d'appliquer des normes relatives aux systèmes d'exploitation et aux logiciels des appareils de communication. Au Royaume-Uni, une loi est en voie d'adoption pour notamment exiger que le contenu diffusé par le service public BBC et d'autres diffuseurs nationaux soit toujours facile à trouver pour le public britannique sur les appareils connectés et les plateformes en ligne. Dans les univers connectés, la censure émane surtout des dispositifs installés par défaut par les entreprises. Les lois doivent protéger notre liberté d'accéder à des contenus produits ici, pendant qu'ils sont encore là. C'était « Téléviseur à reconnecter », un texte de Pierre Trudel paru le 2 avril 2024 dans Le Devoir.
Une famille étoile. Un texte de Rose-Aimée, Automne T. Morin, paru le 30 octobre 2024 dans La Presse. Frankie Isidore est père de 6 enfants, chauffeur pour Amazon et entraîneur bénévole de 3 équipes de basketball. En septembre 2024, il lançait la saison de joueurs de 8 et 9 ans dans l'espoir de leur apprendre à devenir de meilleurs humains. En 4e secondaire, lors de son épreuve de français, Frankie Isidore devait défendre un choix. Voulait-il avoir un seul enfant ou fonder une famille nombreuse? Lui-même enfant unique, il avait argumenté en faveur de la fratrie. Mais bon, il ne s'imaginait pas avoir 6 enfants âgés de 1 à 17 ans 2 décennies plus tard. Le clan entier débarque au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie à Montréal en ce samedi matin d'entraînement. Dominique Greffard, entraîneur adjoint des novices 3A de Jeunesse au soleil, me glisse qu'il admire cette famille qui se déplace toujours à 8. Fatima, la femme de Frankie, me confirme qu'ils sont tissés serrés et rarement à la maison. C'est une passion pour moi de voir mon mari coacher. Son rôle de coach et son rôle de papa, c'est ce qu'il fait de mieux. Tu sais qu'il commence à leur parler de basket dès qu'ils sont dans mon ventre? Me demande-t-elle en pointant sa fille Flora, 4 ans, en train de dribbler avec une dextérité impressionnante au milieu du terrain. La phrase est cliché, mais elle résume avec justesse les faits. Le basketball, c'est un mode de vie pour Frankie Isidore. Dès que j'ai un problème, je vais sur le terrain et c'est parti. Le basketball, c'est le sport qui me comprend. C'est aussi celui qui a facilité son intégration. Frankie est arrivé d'Haïti à l'âge de 12 ans, alors que l'année scolaire était déjà entamée. C'est en prenant un ballon, lors d'une récréation, qu'il a vu son cercle social commencer à se former. Il n'a jamais arrêté de pratiquer. Il dit aujourd'hui jouer à du basket de vieux. Et il entraîne des enfants depuis maintenant 15 ans avec l'espoir de leur transmettre non seulement ses connaissances, mais aussi son immense passion. Que ce soit avec Jeunesse au soleil, l'école primaire de Louisbourg ou l'équipe estivale Up Next, le quadragénaire offre 8 heures d'entraînement par semaine, en plus de superviser 32 parties et plus de 4 tournois par saison. Ça en fait des heures de bénévolat. Heureusement, c'est un projet de famille. Les enfants carburent au basket et Fatima administre les communications de chaque groupe de joueurs, en plus de laver l'uniforme de tout le monde après les entraînements. Je n'imagine pourtant pas que la demeure des Isidore manque de lavage à faire au cours d'une semaine. Ce qu'on aime, c'est donner au suivant, me dit Fatima. Et pour donner, il donne. Nakli Remaret a 2 fils au sein de l'équipe de Jeunesse au soleil et elle affirme que les Isidore leur ont appris à croire en eux. Elle me raconte que son plus vieux était archi-nerveux avant une compétition d'athlétisme, nerveux au point de vouloir annuler sa participation. Frankie, Fatima et leurs enfants ont fait la route pour l'encourager des gradins après l'avoir préalablement convaincu de son talent. Ce jour-là, il a remporté une médaille. Alex Toby, lui, me dit que tous les parents cherchent quelque chose d'impossible pour leurs enfants. Des adultes qui leur donneront autant qu'eux savent le faire. Il a étonnamment trouvé ça chez Frankie Isidore. Il est là pour leur apprendre l'équilibre que le sport peut offrir dans une vie. Mon fils ne connaît pas l'idée qu'un gars puisse être meilleur que les autres. La compétition arrivera bien assez vite. Ici, il s'amuse. Ici, pas question de laisser quelqu'un sur les bancs. La mission de Jeunesse au soleil est de donner une opportunité aux enfants de grandir à travers le sport, précise Frankie. Pour l'instant, ils s'amusent. Mais s'ils veulent aller plus loin dans le sport, ils devront aller au collège. Le basketball comme rampe de lancement vers un certain avenir. En 2023, l'équipe a remporté les grands honneurs après une saison où elle n'a jamais été vaincue. Plusieurs enfants ont donc cogné à la porte de Frankie et de Jeunesse au soleil à l'automne 2024. J'ai des jeunes issus de milieux défavorisés et d'autres dont les parents sont médecins, mais ils ont tous la même passion, indique l'entraîneur. La même passion, oui, mais pas le même bagage, La mère de Zachary, 9 ans, souligne à quel point Frankie Isidore et Dominique Greffard font preuve de patience en enseignant à son fils, qui ne parlait pas du tout français, à son arrivée récente de Taïwan. Et les entraîneurs, eux, travaillent fort pour l'aider à s'exprimer à travers le sport, à défaut de pouvoir le faire parfaitement avec les mots. D'ailleurs, je dois vous dire à quel point c'est beau de voir les enfants jouer avec le sourire aux lèvres. Ils s'encouragent avec une franche camaraderie, se taquinent, se surpassent. J'aime aussi la manière dont celui qu'il surnomme « Coach Frankie » a entamé l'entraînement en leur lançant « Grosse semaine ou quoi ?» Les mains se sont aussitôt levées, tous les joueurs ayant envie de parler de leur dernière dictée. Ces enfants sont unis, en plus d'être plus agiles que je ne le serai jamais, malgré leurs 8 ans. Ce que Frankie et Fatima nous offrent, c'est une extension de notre famille, constate Wendy Simpson. À travers le sport, je cherche des endroits où mon fils pourra apprendre de belles valeurs, parce que les garçons d'aujourd'hui sont les hommes de demain. Ici, ils se soutiennent dans le succès comme dans l'échec. Ils découvrent qu'une équipe, ce n'est pas à propos de soi. Je n'ai aucune difficulté à croire que la famille Isidore puisse effectivement enseigner à quiconque la force du nombre. C'était une famille étoile. Un texte de Rose Aimée, Automne T. Morin, paru le 30 octobre 2024 dans La Presse.
Un abattage d'arbres éléphantesques à éviter. Un texte de Paul Roux, paru le 22 octobre 2024 dans La Presse. Paul Roux a été journaliste et conseiller linguistique à La Presse. Il réside à l'Île des Sœurs. Combien d'arbres seront abattus dans le Boisé Saint-Paul, à l'Île des Sœurs, l'hiver prochain? 1000? 1300? 1500? On n'en sait rien. La mairesse de l'arrondissement de Verdun, Marie-Andrée Mauger, a évoqué quelques centaines lors d'une réunion du Conseil, mais ce sera bien davantage. Dans ses communications officielles, l'arrondissement souligne que près de 1000 frênes seront coupés dans cette forêt urbaine de l'Île des Sœurs. Cependant, le contrat d'abattage obtenu grâce à la loi sur l'accès à l'information mentionne expressément 1300 frênes et autres espèces. Et le chiffre pourrait encore grimper, car les ingénieurs forestiers du service des grands parcs avaient souligné lors d'une réunion d'information à l'été 2024 que 1500 arbres pourraient être sacrifiés dans l'espoir de stopper la grille. Un chiffre énorme. D'autant qu'environ 400 frênes ont déjà été fauchés au cours des derniers hivers. Le Boisé Saint-Paul n'est pas l'Amazonie, faut-il le rappeler. Il s'agit d'une petite forêt de 26 hectares. On compte y abattre les frênes sur une distance de 25 mètres de chaque côté de ces nombreux sentiers. On envisage également de couper les frênes situés à moins de 25 mètres des propriétés. Environ 70% de l'écosystème sera ainsi détruit. Le Boisé Saint-Paul ne deviendra pas une savane, mais il sera troué de nombreuses clairières, comme la mairesse Mauger l'a elle-même reconnu. Les conséquences seront déplorables pour les promeneurs qui troqueront une forêt magnifique contre un boisé dévasté, mais elles seront catastrophiques pour la faune et la flore du lieu. Rappelons qu'environ 150 espèces d'oiseaux habitent ou fréquentent ce boisé, dont une quinzaine d'espèces menacées ou vulnérables. Je doute qu'ils apprécient ce remède de cheval. Cet abattage mastoque est d'autant moins justifié qu'une vidéo filmée par drone montre que le Boisé Saint-Paul, malgré la présence de la grille, reste en bonne santé. Telle est la conclusion à laquelle sont arrivés plusieurs experts. dont des ingénieurs forestiers, après avoir regardé attentivement ce survol d'une trentaine de minutes. Une politique controversée. Le service des grands parcs et l'arrondissement justifient cette position en alléguant qu'il est moins dommageable à terme pour le site d'agir une seule fois plutôt que de différer les coupes sur plusieurs années. Mais cette politique interventionniste est très controversée. Des années d'expérience un peu partout en Amérique du Nord, où la grille sévit depuis plus de 20 ans déjà, ont montré qu'il était préférable d'éviter les coupes trop importantes de frênes. On croit maintenant qu'il faut enlever uniquement les arbres devenus dangereux. C'est notamment la conclusion à laquelle est arrivée l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui fait autorité en la matière. L'organisme affirme désormais que l'élimination des arbres infestés ne constitue pas une mesure efficace pour lutter contre la grille du frêne. La politique du ministère québécois de l'Environnement va dans le même sens. Ce ministère recommande de n'abattre que les frênes présentant un risque évident. La biologiste Louise Gratton, cofondatrice de l'organisme Corridor Appalachien, propose elle aussi de n'abattre que les arbres morts ou malades et dangereux pour les usagers des sentiers ou pour les résidences à proximité. Cette spécialiste de la conservation des milieux suggère d'échelonner les coupes sur une période minimale de 10 à 15 ans afin que le boisé puisse se régénérer naturellement. Ce qui est sans doute plus sage que de promettre de replanter des arbres dans un milieu humide où leurs chances de survie seront faibles. Au mieux, les pousses mettront des décennies à croître. C'est pourquoi les amis du domaine Saint-Paul ont demandé à l'arrondissement de Verdun un moratoire sur cet abattage éléphantesque. Ils ont essuyé un refus sec. Devant l'entêtement de la mairesse, ce nouveau groupe voué à la conservation de l'environnement s'est tourné vers le ministère de l'Environnement pour demander la révocation du permis d'abattage. Il faut espérer que leur appel sera rapidement entendu, car l'opération d'abattage doit commencer dès janvier prochain. Il est donc minuit moins une. Après, il faudra attendre plusieurs générations pour que le boisé Saint-Paul retrouve sa splendeur. Si jamais il la retrouve. C'était un abattage d'arbres éléphantesques à éviter, un texte de Paul Roux, paru le 22 octobre 2024 dans la presse.